Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
En silence dans un premier temps, l'ostéoporose diminue, altère, affaiblit la densité de l'os. Quand un jour, à la suite d'une petite chute peu brutale, la fracture du poignet ou du col du fémur par exemple survient, les premiers soupçons se font entendre. En France, chaque année, on compte près de 400 000 fractures liées à l'ostéoporose. Principalement lié au vieillissement naturel du squelette, cette fragilité osseuse se manifeste généralement aux alentours de la cinquantaine ou de la soixantaine. Favorisée par la ménopause, elle touche majoritairement les femmes, une sur trois contre un homme sur six. Diagnostiquée, notamment par le biais d'un examen radiologique, cette pathologie ou risque, comme préfèrent le dire certains médecins, n'a pour l'heure pas de traitement curatif, mais des solutions adaptées de prise en charge existent. Et la recherche aussi explore de nombreuses voies, certaines sont annoncées prometteuses. Nous parlons de l'ostéoporose aujourd'hui en compagnie de nos invités. Je vous les présente, le professeur Karine Briot. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Avec nous également Michel. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous et bienvenue. Vous souffrez d'ostéoporose depuis bientôt 10 ans. Vous allez nous raconter comment vous vivez cette maladie, comment vous êtes prise en charge, mais aussi comment vous vous prenez en charge. Et ça, c'est un point très important sur lequel nous reviendrons dans un second temps. Nous accueillerons le professeur Honoré Tsiba, chef du service rhumatologie au CHU de Brazzaville, au Congo. Et les dernières minutes de l'émission nous permettront de faire un point sur le Covid-19 en RDC avec le professeur Jean-Marie KMB. Il me semble ne pas vous avoir salué. Bonjour et bienvenue à vous tous dans Priorité Santé. Vous avez le programme.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Briot, l'ostéoporose, risque ou maladie, et pourquoi les médecins ne sont pas nécessairement d'accord sur le terme employé, la terminologie ?
L'ostéoporose, c'est vraiment une maladie. C'est une maladie parce qu'elle est associée à des conséquences graves en termes, les fractures de l'ostéoporose sont associées à parfois un excès de mortalité, à des conséquences graves en termes de handicap, et donc ce n'est pas uniquement un risque, c'est vraiment une maladie qui a derrière toute une physiopathologie, plein de mécanismes qui expliquent pourquoi certaines personnes ont de l'ostéoporose et font des fractures et pourquoi d'autres n'en font pas.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'ostéoporose, nous décrire cette maladie ?
L'ostéoporose, faut le voir comme une fragilité osseuse liée à une diminution de la résistance des os, à des traumatismes comme une chute. Et donc, c'est une susceptibilité à se fracturer, à se casser pour un faible traumatisme. Donc, c'est un problème de résistance des os dont la conséquence clinique est la fracture.
Je vous présente Michel qui est avec nous, professeur Briot. Michel, bienvenue sur notre antenne.
Merci, bonjour à tous.
Bonjour à vous et bienvenue encore une fois. Est-ce que, à travers les mots du professeur Briot, vous reconnaissez ce que vous avez vécu, ce que vous vivez dans la description de cette maladie ?
Pour moi, l'ostéoporose, effectivement, elle a dit que c'est associé à des conséquences, mais aussi il y a les causes de l'ostéoporose. Et donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'ostéoporose, c'était par un rhumatologue de Lyon qui, a voulu être actif en prévention, ce qui est très, très rare. Les médecins qui s'occupent de la prévention. Et tout ça pourquoi ? Parce que dans le même cabinet médical où se trouvait ce rhumatologue, il y en avait d'autres, il y avait des neurologues, il y avait des néphrologues, des allergologues,
des gastro-entérologues.
Voilà, donc ils travaillaient en synergie avec les autres médecins que j'ai consultés. Et donc ce qu'il m'a expliqué du fait de mes fragilités, pas que osseuses, mais digestives et respiratoires, enfin, donc lui, d'après lui, donc c'était dans les années 90, je serais, frappée de ce problème.
Vous aviez un profil
Pour lui, c'était le problème osseux, c'était lié aux autres problèmes.
Alors, ne nous dites pas tout tout de suite, Michel. Je voudrais demander au professeur Brio, est-ce que c'est ces fractures dont vous parlez qui sont liées à un choc ou une chute assez anodine, est-ce qu'elles peuvent aussi évoquer d'autres maladies osseuses, pas nécessairement l'ostéoporose ?
Le fait d'avoir une fracture liée à l'absence de chute ou à une chute très faible, ça renvoie à une fragilité osseuse dont la cause la plus fréquente, c'est l'ostéoporose, et dont la cause la plus fréquente, c'est l'ostéoporose après la ménopause. Mais il y a d'autres maladies qui fragilisent les os et qui ne sont pas liées à l'ostéoporose, et c'est pour ça que normalement, lorsque l'on fait une fracture, on va voir un médecin qui fait des explorations, surtout par une prise de sang, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies qui expliquent cette fragilité osseuse et qui n'est pas de l'ostéoporose.
Justement, Michel, à vous, on vous a fait ces examens sanguins.
Oui.
À un moment donné.
Oui, oui, oui.
Pouvez nous en dire plus ?
Alors,
que viviez-vous au moment où on vous a fait ces examens ?
Donc moi, ça, comment dire, la dégradation là, de mes maladies, donc ça a commencé donc, dans les années 90. J'ai eu des examens faits par... Même le médecin du travail a participé, donc pour savoir si j'avais des inflammations, des choses comme ça. Et donc le premier rhumatologue, lui, il avait pensé aussi, j'ai pas pensé à le dire, il avait pensé aussi aux histoires hormonales. Donc il avait déjà pensé aux problèmes hormonaux qui pourraient intervenir là-dedans aussi. Comme j'ai eu... J'ai eu une opération au rein. Hein, puisqu'on a trouvé une maladie au rein. Je me suis fait opérer donc en 1994 et après les douleurs au dos étaient encore plus fortes. Donc il a fallu voir encore plus de médecins. Et donc le médecin qui a fait le plus de recherches en 2000, c'est un immunologue.
Pour être bien sûr, à ce moment-là, pour le moment, pas de diagnostic d'ostéoporose. Un médecin qui vous a dit très certainement qu'il faudra surveiller l'ostéoporose puisque vous présentez un profil, on va en reparler avec le professeur Brio, un profil qui pourrait voir survenir l'ostéoporose, mais juste à surveiller. Voilà.
Voilà, donc, mais ce qu'il y a, il fallait quand même trouver quelqu'un pour calmer les différentes douleurs avec différentes causes. Donc c'est un état général de beaucoup de douleurs que j'ai eu dans les années 2000. Et après, j'ai eu des histoires d'hémorragie, j'ai eu des histoires de vertige. Donc là, j'ai vu des neurologues et des ORL.
Vous aviez une santé assez dégradée globalement.
Et donc dans les années 2000 aussi, donc non, c'est en fin 90, dans les années 4, fin de 90, j'ai eu une chute dans les escaliers. Parce que là, j'étais fatiguée et je me suis tordu le pied. Voilà, donc,
mais sans fracture.
Non.
Comment ?
Mais ça m'a abîmé quand même. Hein.
Bien sûr. Comment allez-vous aujourd'hui ou en ce moment ? Et y a-t-il des jours avec et des jours sans, comme on dit ?
Ah bah oui, il y a des jours justement, je suis très fatiguée et donc je préfère pas sortir ces jours-là parce que ça m'y arrive encore l'année dernière. Bah si je sors alors que je suis fatiguée, je retombe dans la rue quoi. Donc
Donc vous coupez un attention. Petit peu du monde extérieur quelque part. Cette maladie vous coupe un petit peu de votre vie sociale.
Oui.
À quel âge le diagnostic a enfin été posé, Michel ?
Ça a été fait en 2011.
Et quel âge aviez-vous ?
Donc en 2011, j'avais 56 ans.
On vous fait faire un petit effort de calcul mental.
Oui.
Professeur Brio, cet âge, 56 ans, est-ce un âge dans la moyenne de ce qu'on retrouve, de l'apparition de l'ostéoporose ?
En tout cas, il est plus fréquent donc de trouver de l'ostéoporose après la ménopause. L'âge de la ménopause étant vers 50 ans, c'est vrai qu'on va faire plutôt des diagnostics après 50 ans. Donc c'est effectivement plus fréquent après la ménopause.
Et ce tableau dont a parlé Michel, un ensemble de maux, de douleurs, voire de maladies, est-ce que c'est aussi classique de l'ostéoporose ?
Alors sous réserve que je ne connais pas Michel,
bien évidemment.
Ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'il y a des fragilités osseuses de type ostéoporose qui peuvent apparaître secondaires à des maladies inflammatoires ou des comme
une inflammation. Elle a parlé d'une sciatique par exemple.
Alors avec une inflammation, ça peut être par exemple une polyarthrite rhumatoïde, donc une maladie inflammatoire, parce qu'on sait que l'inflammation va activer les cellules qui dégradent de l'os, qui s'appellent les ostéoclastes. Donc c'est une cause d'ostéoporose. Après, il y a les maladies intestinales, où on a des problèmes de perte de poids ou de troubles digestifs qui peuvent aussi favoriser. En fait, il y a tout un tas de maladies chroniques qui peuvent favoriser une fragilité osseuse de type ostéoporose. Mais quoi qu'il arrive, la manifestation clinique de l'ostéoporose reste la fracture et pas les douleurs osseuses. Les douleurs osseuses sont souvent plutôt liées à de l'arthrose, donc un problème de dégénération du cartilage qui s'observe au même âge que l'ostéoporose. Mais ça, c'est important parce que quand on va traiter l'ostéoporose ou essayer de prévenir l'ostéoporose, le but, c'est de renforcer les os et on n'aura pas d'efficacité sur le traitement des douleurs en dehors des fractures.
Vous avez pointé là toute la difficulté aussi du diagnostic, c'est que l'ostéoporose avance, il y a cette avancée silencieuse dans un premier temps, et quand la fracture arrive, l'ostéoporose est d'ores et déjà installée.
Effectivement, la fracture, c'est un signe d'ostéoporose, donc on arrive, et forcément, on peut se dire un peu tard, hein, puisqu'on n'a pas fait de prévention. Après, on va peut-être en reparler, mais l'examen qui permet de faire le diagnostic d'ostéoporose, il peut être fait avant la fracture, en cas de maladie chronique particulière, de médicaments particuliers, de facteurs de risque, qui sont aujourd'hui bien authentifiés, et qui permettent de faire cet examen et de trouver cette diminution de la résistance osseuse avant la fracture.
Vous venez aussi de parler de facteurs de risque avec Michel. On a parlé de ce profil qu'elle avait, qui a alerté l'un de ses médecins. Michel, vous pouvez nous dire quel était exactement ce profil?
Eh ben, c'est parce que le fait d'avoir déjà une maladie rénale, donc qui a été opérée, et finalement après l'opération, je me suis retrouvée avec des calculs dans le rein, donc ça n'a pas trop arrangé les choses, mais ça démontre quand même que quand on voit les spécialistes des reins, que il y a des histoires de minéraux en trop ou pas assez, type calcium, magnésium et autres, vitamine D, tous ces déséquilibres qui sont aussi bien dans le rein mais dans le restant de l'organisme. Et et même les médecins du rhum ont parlé aussi, et ça c'est connu par les rhumatologues, de la parathyroïde qui peut amener des problèmes. La parathyroïde, si elle dysfonctionne, ça amène des ennuis avec le calcium et les os.
On a parlé des risques de survenue de l'ostéoporose. Le VIH augmente jusqu'à 6 fois les risques d'ostéoporose. Est-ce que ces patients sont d'emblée mis sous surveillance avec justement les examens, les prises de sang? Est-ce qu'on les surveille de près?
En tout cas, les patients, par exemple, qui ont une infection par le VIH ont dans le bilan de toutes les maladies associées au VIH une mesure de la densité osseuse, cet examen qui permet de faire le diagnostic d'ostéoporose. Donc c'est vrai que les infectiologues se posent la question, ils recherchent les antécédents de fracture dans cette population, et ils font cet examen, ils vont doser le calcium, la vitamine D, pour surveiller, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'un médicament dans tous les cas, mais en tout cas au moins pour surveiller, parce qu'on sait que c'est fréquent au cours de l'infection par le
VIH. Il y a une surveillance systématique dans ces cas-là.
Tout à fait, oui.
Michel, arrivé jusqu'à ce diagnostic qui est arrivé en 2011 d'ostéoporose, ça a été un long chemin pour vous. Vous pouvez nous en dire plus, et je sais que vous avez aussi un message à faire passer auprès de nos auditeurs.
Moi, ce que j'ai vécu, c'est, ça démontre que ça implique beaucoup de recherches auprès des médecins, sur déjà savoir identifier les différentes pathologies que l'on a, puisque on peut avoir et de l'arthrose et de l'ostéoporose et des entorses et des chutes. Donc effectivement, là, pour le rhumatologue, ça fait énormément de temps à passer dans les examens, les radios, les IRM, les prises de sang, hein. Justement, concernant ces consultations, j'ai appris l'année dernière que certains hôpitaux à Paris et ailleurs, ils appellent ça les consultations multidisciplinaires. Et j'aurais voulu savoir si ces consultations, donc où il y a plusieurs participants du milieu médical, ça permet des prises en charge plus précises et plus efficaces. Voilà.
Professeur Brion.
Donc ça, c'est une très bonne question parce que même si on n'est pas encore arrivé dans le traitement de l'ostéoporose, ou en tout cas la prise en charge de l'ostéoporose, comme vous l'avez compris, c'est d'un côté améliorer la résistance des os et d'autre côté éviter la chute qui est la principale cause de fracture. Et donc souvent on a besoin à la fois de discuter du médicament, de discuter des apports en calcium, en vitamine D, donc de l'hygiène de vie, de discuter de l'activité physique, de discuter de la prévention des chutes.
Et on va développer tout
ça. Et on va
développer
la prévention des chutes et toute la prise en charge multidisciplinaire. Alors parfois, il est vrai que la prise en charge de l'ostéoporose nécessite l'intervention d'un médecin spécialiste des chutes, de l'activité physique, une diététicienne, un médecin prescripteur du médicament. Donc ça peut être une prise en charge multidisciplinaire. Après, moi, j'ai pas à ma connaissance pour l'ostéoporose simple de connaissance de consultation multidisciplinaire, mais dans tous les cas, une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire.
Mais sur ce point précis du diagnostic, les errances médicales ou les retards de diagnostic dont nous a parlé Michel, est-ce que c'est classique pour l'ostéoporose ?
Ah, c'est, je dirais, le principal problème de l'ostéoporose. Alors, sans aller dans des problèmes de maladies un peu intriquées et qui peuvent rendre complexe le diagnostic, simplement, vous venez dans un service de chirurgie orthopédique avec une fracture liée à une chute de votre hauteur. Le chirurgien orthopédiste, il va très bien opérer la fracture. Puis vous allez rentrer chez vous et jamais personne va se poser la question mais pourquoi est-ce que la fracture est survenue ? Jamais se poser la question d'une fragilité osseuse. Et donc comme les fractures liées à l'ostéoporose, elles consolident bien, et ben la personne elle revient chez elle.
Je sais que c'est l'un de vos combats.
C'est le combat, je pense, de tous les rhumatologues qui veulent améliorer la prise en charge de l'ostéoporose, c'est déjà de dépister l'ostéoporose après une première fracture. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Donc voilà, une errance assez simple. Hein. Ça paraît assez simple comme ça. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que personne n'y pense ? Alors, il y a plein d'explications. Hein. Et ça, c'est pas un problème récent hein, lié au problème de surcharge des structures hospitalières. C'est un problème qui existe depuis près de 15 ans.
D'où la nécessité d'une journée comme celle-ci et des journées qui suivent de la prévention et de l'information. Je vous propose une pause musicale avant de poursuivre cette discussion sur l'importance d'éviter les chutes chez les personnes âgées, vous y avez fait allusion, et d'aborder aussi la question des traitements et des solutions. On écoute Kimber Rose avec Back on My Feet.
To see, I just let go this time for sure. And in the blink of an eye, and yeah, I made my mistakes. Time to escape, at least I'm gonna give it a try.
Back on my feet, I hit the street. I finally found
Back on My Feet dans Priorité Santé. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre, journée mondiale de l'ostéoporose. Notre thème aujourd'hui, le professeur Karine Brio, rhumatologue, est toujours avec nous, ainsi que Michel, atteinte d'ostéoporose, qui nous fait part de son témoignage. Professeur Brio, nous allons avec vous nous intéresser en particulier aux chutes des personnes âgées à éviter absolument quand elles sont atteintes d'ostéoporose, on l'a bien compris. Et avant cela, nous allons expliquer quel est ce lien entre la ménopause et l'ostéoporose chez les femmes.
Alors, à la ménopause, qui survient en général vers l'âge de 50 ans, il y a un arrêt de la production des hormones féminines qu'on appelle les œstrogènes. Et ces œstrogènes sont extrêmement importantes pour ce qu'on appelle le remodelage osseux, c'est-à-dire la formation et la destruction des os. Et quand il y a plus d'œstrogènes, eh ben il y a la destruction des os et s'emballe et va aboutir à un déséquilibre avec la formation osseuse et un excès donc de fragilité osseuse avec une diminution de la masse osseuse, de la densité osseuse et donc une augmentation du risque d'ostéoporose et de fracture.
Pourquoi toutes les femmes ménopausées ne sont pas égales face à l'apparition de l'ostéoporose ?
Parce que la ménopause n'est pas la seule cause d'ostéoporose et on peut arriver au moment de la ménopause avec d'autres facteurs de risque qui prédisposent à l'ostéoporose et la ménopause va se surajouter à ces facteurs de risque.
Qui sont
facteurs de risque qui sont des facteurs de la génétique, hein, puisqu'il est classique de dire que avoir sa mère qui s'est cassée ou son père qui s'est cassé le col du fémur multiplie par deux le risque chez les enfants de faire une fracture du col du fémur.
Donc un terrain héréditaire.
Donc il y a un terrain héréditaire, mais c'est pas en soi une maladie génétique, mais c'est juste un terrain. Après, il y a un certain nombre d'éléments comme le poids. Le faible poids est un facteur de risque. D'avoir consommé du tabac,
d'alcool.
Trop d'alcool. Après, comme je vous dis, il y a les maladies. D'avoir une maladie inflammatoire, une maladie chronique intestinale. Et donc en fait, il y a un certain nombre d'autres facteurs de risque. La ménopause en est un de plus. Et donc certains vont avoir donc plus d'ostéoporose que d'autres. Tout le monde n'a pas de l'ostéoporose malgré une ménopause parce que les conséquences de la carence en hormones sexuelles sur les os sont pas toujours les mêmes pour plein de raisons un peu plus complexes.
Michel, sans être trop intrusive, étiez-vous ménopausée quand l'ostéoporose a fait son apparition dans votre vie?
Pas fini. C'était pas. Non, j'étais pas encore entrée dans la ménopause. Là, avant d'avoir la ménopause, j'ai eu donc des hémorragies à cause d'un fibrome. Et donc.
Vous étiez pré-ménopausée peut-être?
Donc. Voilà, c'est ça. Oui, donc j'avais des problèmes hormonaux, quoi, en fait. Hein. J'ai compris qu'il y avait des œstrogènes et tout ça qui n'allaient pas non plus, puisque ça me provoquait ces hémorragies.
Alors, les chutes chez les personnes âgées ne sont pas rares, mais si ces personnes sont ostéoporotiques, ces accidents peuvent s'avérer parfois même mortels. Sans offenser personne, professeur Brio, une personne âgée, dans ce cas précis de l'ostéoporose, c'est à partir de quel âge ?
Alors après, les études, elles sont surtout intéressées au sujet de plus de 60 ans, 65 ans, ce qui n'est pas pour nous, en tout cas rhumatologues, une personne âgée. Mais en tout cas, le risque de fracture, il augmente dès 65 ans. Et donc, ce qu'il faut s'intéresser surtout, c'est aux chutes multiples et répétées. Il y a toujours une chute accidentelle, on n'avait pas mis les bonnes chaussures. Bon, on fait une chute. Dans l'année, bon, c'est probablement moins d'impact, mais il y a des personnes après 65 ans qui font une, deux, trois chutes, des chutes répétées. Et donc, véritablement, le risque de fracture augmente chez les patients qui font des chutes répétées. Et c'est ces patients qui font identifier et comprendre pourquoi est-ce qu'ils chutent pour arriver à prévenir les chutes.
Que dites-vous à vos patients âgés de plus de 65 ans, donc, avec quels mots les sensibilisez-vous pour qu'ils évitent à tout prix cette fracture ? Pour qu'ils y prennent garde, en tout cas.
Pour qu'ils évitent la chute.
Pour qu'ils évitent la chute et la fracture qui peut en découler.
Alors, bon, on leur dit que c'est vrai que s'ils ne chutent pas, le risque de fracture est quand même nettement diminué. Et donc, on leur donne tous les conseils vis-à-vis du risque de chute. Hein. Les chutes, c'est toujours une origine liée à plusieurs facteurs. C'est soit il y a un problème de lunettes, un problème de chaussage, un problème de trop de médicaments, un problème d'aménagement de la maison. Et donc, il faut leur demander et les interroger sur tout ce qui, toutes les causes potentielles de chute qu'il y a pour arriver à leur faire comprendre que pour prévenir les fractures, si déjà ils ne chutent pas, Ben, ils ont en fait déjà une grande partie de la prévention vis-à-vis du risque de fracture.
Michel, sur la question de porter de bonnes chaussures, vous aussi vous avez été amené à y prendre garde et à changer vos chaussures.
Absolument.
Hein, pour et ne donc, pas chuter.
Voilà, donc j'en profite pour dire que j'ai constaté, dans certains cabinets de médecins rhumatologues, ben, y a des rhumatologues, par exemple à Angers, à Paris, qui ont dans leur cabinet un appareil pour mettre les pieds dessus, le podoscope, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour voir dans quel état le pied il se met sur quand on marche. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet déjà de voir si déjà le pied il n'est pas affaibli ou il y a l'entorse est bien arrangée et ainsi de suite quoi. Donc ça et puis donc ça peut être résolu ces problèmes donc avec certaines semelles. Et aussi j'ai fini par trouver un médecin aussi qui s'est intéressé au type de chaussures que je mettais. Et elle m'a dit qu'il faut faire une certaine catégorie qui tient très 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 bien le pied.
Donc là encore...
Le pied se tord trop facilement. Et des chaussures spéciales dans les magasins.
Et ça va mieux depuis ?
Oui, ça va mieux. Je suis donc, plus sûre quand je marche. Quoi.
Vous êtes rassurée. Quels sont les traitements qu'on peut proposer ?
Les traitements
de l'ostéoporose, professeur Brion.
Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que quand on parle de traitement, on parle de médicaments qui peuvent diminuer le risque de fracture. Alors ça, on a des classes de médicaments, plusieurs, qui sont soit des comprimés, soit des traitements en piqûre sous-cutanée, soit en perfusion. Et certains vont agir sur les cellules qui dégradent de l'os, qu'on appelle les ostéoclastes, et d'autres vont agir sur les cellules qui forment de l'os, qu'on appelle les ostéoblastes. Et donc, on a dans l'arsenal des traitements disponibles aujourd'hui, des traitements qui bloquent la destruction osseuse ou des traitements qui stimulent la formation osseuse. Globalement, les traitements diminuent de 60 à 70% le risque d'un type de fracture qu'on appelle les fractures de vertèbres ou les tassements vertébraux. Et pour les autres types de fractures, on est entre 40 et 50% pour les autres types de fractures, en particulier le col du fémur. Donc après, le choix entre les médicaments, ça va dépendre du type de là où est l'ostéoporose, du type de fracture, des médicaments déjà pris par la personne, des maladies qui seraient peut-être des contre-indications. Donc on a quand même des traitements efficaces pour diminuer le risque de fracture. Et ça, c'est à distinguer du calcium et de la vitamine D.
J'allais y
question
venir.
Récurrente que j'anticipe.
Supplémentation.
Qui sont importants pour limiter la perte osseuse, mais qui n'ont jamais montré qu'ils pouvaient diminuer le risque de fracture. Et donc, de l'idée qu'en prenant du calcium et de la vitamine D, qu'on va diminuer le risque de fracture, cette idée, elle est fausse. Et donc, le calcium et les vitamines D, c'est important pour maintenir la masse osseuse, pour permettre aux médicaments de l'ostéoporose d'être plus efficaces. Mais en aucun cas, ça n'est aussi efficace que les médicaments.
Je voudrais partager avec vous, faire part de questions de nos auditeurs qui sont arrivées via Facebook. Une question d'Abdel Hakim au Bénin. Peut-on éviter ou traiter cette maladie en prenant des vitamines ? Si oui, lesquelles ? Quelque part, c'est à cette question que vous venez de répondre.
Tout à fait. Hein. Donc avec la vitamine D et le calcium, c'est vrai que si on a des apports normaux en calcium et des taux de vitamine D normaux, ben on prévient la diminution de la densité osseuse. Mais ça ne va bien évidemment pas traiter l'ostéoporose parce qu'aujourd'hui avec les médicaments, et notamment les derniers médicaments, on peut vraiment améliorer la masse osseuse et aller jusqu'à une guérison de l'ostéoporose.
C'est plutôt intéressant d'entendre... Cette, entre guillemets, bonne nouvelle. Il y a une question d'Yves Ali au Togo. Est-ce que la drépanocytose peut être un facteur de risque de l'ostéoporose ?
Oui, il y a des travaux de recherche qui ont, chez les patients atteints de drépanocytose, qui ont montré effectivement une augmentation du risque de fragilité osseuse, ce qu'on appelle ostéoporose. Et on peut voir des patients notamment qui font des fractures, et ces fractures vertébrales dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle tassements vertébraux, avec un risque augmenté.
Michel, vous sentez-vous mieux depuis votre traitement ?
Oui.
Quel est-il ce traitement pour vous ?
J'ai eu des comprimés et puis bon, tous les médecins que j'ai vus, moi pour mon état général, c'est les séances de kiné, c'est les séances de comment dire, cure thermale. Je vais en cure thermale là pour...
Ça vous fait du bien?
Oui, pour calmer les douleurs et, comment dire, il y a certains médecins avec les bas, ils disent que ça agit sur l'immunité. Alors ça, je sais pas comment, mais... Et il y a des médecins avec les bains qui cherchent ça, donc...
Mais la recherche voilà. est très active, vous pouvez le confirmer, professeur Briot, sur les traitements apportés à l'ostéoporose.
Oui, il y a toujours, même si on a des traitements déjà très efficaces, il y a d'autres voies de médicaments qui sont à des stades assez avancés de recherche, notamment ce qu'on manque dans les médicaments de l'ostéoporose, c'est d'autres traitements qui stimulent la formation des os. On n'en a qu'un seul.
Mais là-dessus, il y a des avancées
et
aussi.
Donc il y a des avancées sur des traitements qui joueraient sur la stimulation des os. Et donc ça serait un plus dans tout l'arsenal de tous les médicaments que l'on a pour traiter les patients.
La suite de notre discussion nous amène au Congo-Brazzaville où exerce le professeur Honoré Tsiba.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour professeur, vous êtes professeur titulaire de rhumatologie, doyen de la faculté des sciences de la santé, université Marianne Gouabi, chef de rhumatologie au CHU de Brazzaville. Bonjour, bienvenue parmi nous.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, je vous présente à mes côtés le professeur Karine Briot qui est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et Michel qui nous...
collègue.
Bonjour. Je vous laisse vous saluer.
Bonjour.
Et Michel, que vous avez très certainement entendu, qui nous explique comment elle vit au quotidien avec l'ostéoporose. Professeur Tsiba, globalement en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, les cas d'ostéoporose sont relativement faibles. Comment l'expliquez-vous ?
Tout à fait. En Afrique subsaharienne, effectivement, les études particulièrement hospitalières que nous faisons ne retrouvent pas une... incidence importante des taux élevés d'ostéoporose, comme cela se voit en Europe. Nous avons des cas d'ostéoporose qui s'expriment moins par des tassements vertébraux. Nous avons beaucoup plus des fractures des extrémités osseuses, col du fémur, au niveau de poignet ou au niveau de la cheville, lors des chutes, hein, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure par la personne qui est à l'antenne tout à l'heure.
Comment vous l'expliquez, du coup? Est-ce que pour vous c'est...
Probablement que la masse osseuse de départ doit être différente, probablement. Il y a peut-être un terrain génétique, serait
plus favorable.
Nous pensons que la masse osseuse devrait être un peu plus importante en Afrique subsaharienne que dans les pays européens, probablement.
Et que dire de l'ensoleillement?
Est-ce qu'il y a peut-être l'ensoleillement?
Que dire de l'ensoleillement?
Des ultraviolets hein, qui passent par la peau vont entrer dans le cholestérol pour aboutir donc à la formation de la vitamine D. Et peut-être que cet ensoleillement nous permet également d'avoir une
masse globale
osseuse plus importante que dans les pays peu ensoleillés.
Professeur Briot, sait-on si dans les régions françaises où le soleil est plus présent qu'à Paris, je pense au sud de la France, pourquoi pas au département d'outre-mer, les cas d'ostéoporose sont moins importants?
N'a-t-on pas de
chiffres là-dessus?
Il y avait des études, même dans le sud de la France, l'ostéoporose est aussi importante que dans le nord. Alors, il y a différentes choses vis-à-vis de la vitamine D et du soleil. En particulier, on se protège du soleil. Et donc, si on se protège du soleil, il n'y a pas de synthèse de vitamine D. Mais non, il n'y a pas du tout de gradient inverse entre plus d'ensoleillement et moins d'ostéoporose en France, en tout cas.
En 2016, il y a une étude qui a été publiée par une historienne de l'université de North Texas qui émet cette hypothèse, c'est que dans certaines régions, la population a pu génétiquement s'adapter à un régime pauvre en calcium et se montrer donc plus résistante. Elle parle même d'immunité, de quasi-immunité en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous partagez cette hypothèse? Est-ce qu'elle est intéressante, professeur Tsiba?
Je pense qu'il y a peut-être un facteur génétique, Un facteur génétique qui irait probablement dans le sens où la masse osseuse globale, nous avons réalisé nous-mêmes pendant notre formation à Angers, une étude comparative sur la masse osseuse des sujets d'Afrique subsaharienne comparée aux sujets français. On avait mis en évidence que la masse osseuse paraissait plus importante chez les sujets en Afrique subsaharienne que dans les pays du Nord. Reste à vérifier ces hypothèses sur les populations plus importantes.
Quelle est la situation de cette maladie aujourd'hui à Brazzaville?
Mais à Brazzaville, nous avons, comme je l'ai dit, un peu d'expression au niveau de la colonne vertébrale. Il y a très peu de tassements vertébraux.
Quasi
par contre, on a des fractures des extrémités. Mm-hmm. Et est-ce que c'est parce que la population générale est également un peu plus jeune que dans les pays du Nord? Ça reste des hypothèses.
La population est-elle sensibilisée alors à cette maladie?
Pas beaucoup.
Qu'elle est quasi inexistante.
Pas beaucoup. C'est surtout à la suite donc des chutes, les glissades, mm-hmm. les personnes âgées qui se fracturent le col du fémur ou les os de l'avant-bras.
Et est-ce que ce sont ces fractures qui poussent vos patients à consulter et à découvrir, pourquoi pas, l'ostéoporose?
C'est à l'occasion donc de ces fractures, à l'occasion donc de chutes, de traumatismes minimes en ce moment, on dit qu'il y a une ostéoporose hein, sous-jacente qui est à l'origine donc de la fracture au cours des suites, chez le sujet âgé, particulièrement en post-ménopausie.
Vous venez de parler du sujet âgé. Moi, je vais vous parler de sujet en surpoids. Une question de Yougou. Est-ce que les personnes en surpoids ont plus de risques d'avoir de l'ostéoporose?
Professeur Ntiba. Question pertinente.
Mais je peux vous la poser à vous aussi, professeur Brio.
Ça fait partie des facteurs. Les facteurs de risque de l'ostéoporose, le surpoids, fait partie des facteurs.
Y a-t-il...
Ils sont incriminés, de plus en plus incriminés, comme on incrimine le tabac et bien d'autres facteurs.
Rencontrez-vous des cas d'ostéoporose chez les sujets jeunes? Cette question, je vous la pose à vous, professeur Brio, et par la suite à vous, professeur Ntiba.
Oui, il y a de l'ostéoporose avant la ménopause, hein, puisqu'on va devenir jeune, c'est même très très jeune avant la ménopause. Effectivement, mais c'est souvent secondaire à des traitements. Hein. Et la première cause d'ostéoporose chez le sujet jeune, c'est la prise de cortisone, par exemple.
Prolongée,
mais même à dose très faible. Hein, il faut vraiment se méfier de la cortisone. Et après, c'est souvent, comme je vous dis, il y a des problèmes endocriniens, hormonaux, des problèmes de restriction alimentaire. Donc il y a toujours une cause pour expliquer cette ostéoporose chez les sujets jeunes.
Professeur Ntiba, rencontrez-vous ces cas d'ostéoporose chez les sujets jeunes?
L'ostéoporose chez les sujets jeunes, souvent secondaire à une prise de corticoïdes, hein, les asthmatiques qui sont sous traitement corticoïde au long cours, les maladies rhumatismales nécessitant une corticothérapie au long cours. En ce moment-là, il y a d'autres maladies, bien sûr. Même les corticoïdes de 16 ans en injection intra-articulaire sont susceptibles d'induire une ostéoporose, bien sûr. Bien sûr.
Lorsque cette maladie est diagnostiquée chez le sujet jeune, ne lui envoie-t-il pas un message inquiétant qui lui dirait « tu es en train de vieillir » et là aussi ne faudrait-il pas, ou le sujet est-il accompagné, le patient est-il accompagné psychologiquement pour mieux accepter, mieux vivre sa maladie? Professeur Brio.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a souvent une cause pour expliquer l'ostéoporose chez le sujet jeune. Donc, en essayant de traiter la cause, ça peut être réversible. Il peut encore s'améliorer. Donc, par exemple, pour la cortisone, par exemple, pour rhumatisme inflammatoire, on sait qu'on a des traitements maintenant qui permettent de limiter la dose de cortisone. Donc, il faut essayer au maximum de limiter la dose de cortisone pour voir l'os se reformer. Et donc, avant de les accompagner dans un diagnostic difficile, il faut leur dire qu'au contraire, de bien traiter leur maladie, de diminuer la dose de cortisone permet de récupérer de l'ostéoporose et donc de leur permettre d'avoir des os moins sévèrement touchés quand ils seront plus âgés.
Professeur Ntiba, avez-vous un message de prévention à faire passer à l'antenne?
Bien sûr,
on
le message
écoute.
C'est que à nos populations, il faut qu'on sache que cette ostéoporose existe, elle existe un peu plus chez le sujet en post-ménopausique, d'où la fragilité osseuse qui explique ces fractures faciles au cours des chutes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on a des soucis pour le diagnostic, morphologique, puisque nous ne disposons pas de machines pour pouvoir faire, par exemple, une ostéodensitométrie et savoir à quel niveau on se trouve pour pouvoir voir, suivre, diagnostiquer et puis suivre l'évolution de la maladie sous traitement.
Et comment pouvez-vous le poser? Comment le posez-vous alors ce diagnostic sans ces outils?
Alors, sans ces outils, le diagnostic, nous avons des arguments, c'est un ensemble d'arguments cliniques sur une radiographie standard avec des minéralisations osseuses diffuses, sur l'histologie qu'on puisse faire sur l'os. En ce moment, on arrive à poser le diagnostic d'ostéoporose.
Merci à vous, professeur.
Beaucoup plus un diagnostic différentiel chez nous, Puisque pour retenir, par exemple, ce diagnostic d'ostéoporose, on est obligé d'éliminer les autres pathologies graves, telles qu'une métastase osseuse d'un cancer, par exemple.
Merci à vous, professeur Ntsiba. Merci beaucoup pour cet éclairage et toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes chef de rhumatologie au CHU de Brazzaville. Merci encore. D'un Congo à l'autre, on poursuit cette discussion. Nous accueillons maintenant, pour cette dernière minute de l'émission, le professeur Jean-Marie Kayembe pour faire un point sur la situation du Covid en RDC.
RFI.
Professeur Kayembe, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa, donc en RDC. Vous êtes doyen de la faculté de médecine et professeur de pneumologie, physiologie respiratoire et maladies professionnelles. Sur les chiffres moins importants, en Afrique, où on compte environ 1,5 million de cas positifs au Covid-19, vous dites attention, pas de triomphalisme. Expliquez-nous pourquoi cette réserve reste de mise.
Ben, elle reste de mise parce que, par exemple, dans la grande métropole de Kinshasa, les hôpitaux n'admettent plus beaucoup de cas de Covid, surtout des cas sévères. Mais ce n'est pas le cas dans le Nord Kivu, par exemple, où il y a encore des admissions pour la Covid-19. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous ne devons pas baisser les bras ni faire du triomphalisme parce que la maladie n'est pas encore totalement partie de chez nous.
L'état d'urgence a été levé l'été dernier, fin juillet. Est-ce que les mesures, les gestes barrières continuent à être adoptés par les uns, par les autres?
Nous avons certainement des grosses préoccupations quant à ce. C'est vrai que les mesures barrières, le secrétariat technique ainsi que la communication qui doit se faire autour par le ministère de la Santé, les acteurs de santé, continuent de se faire. Mais l'appropriation par la population et surtout les jeunes, etc., est difficile. Difficile également à cause de la promiscuité qui fait que les gens doivent absolument sortir et sortir tous les jours, ne fût-ce que pour survivre.
Vous parlez de cette promiscuité qui reste un problème. Y a-t-il des lieux véritablement qui sont très sensibles pour la propagation de ce virus?
Tout à fait. Mais vous savez, les marchés chez nous, etc., sont généralement bondés de monde. La réserve alimentaire n'est pas toujours facile. C'est parfois la vie au jour le jour qui fait que les gens sont obligés de sortir tous les jours pour la survie. Et ça, c'est un fait qui nous dérange. Ceci n'écarte pas les interrogations que nous nous faisons tous pour dire pourquoi on n'a pas une aussi grande propagation du virus dans notre pays. Quelques explications commencent à poindre à l'horizon dans ce domaine.
Lesquelles? Vous avez piqué notre curiosité.
Par exemple, nous pouvons évoquer, mais évidemment la médecine elle aime les évidences. J'ai l'humilité de reconnaître qu'on ne les a pas toutes, mais nous pensons tout de même qu'il puisse y avoir un jeu quelque part de l'immunité croisée. Nous vivons en général depuis tout petit, etc., avec des conditions, notre système de sanitaire est assez faible, il faut le reconnaître, avec des conditions sanitaires un petit peu déplorable dans la plupart des quartiers populaires, etc. N'avons-nous pas la plus grande partie de la population dans ces conditions rencontré éventuellement d'autres coronavirus, il y en a dans le monde animal, etc., qui assurerait une immunité, une certaine immunité croisée, comme je disais. Mais aujourd'hui, on sait également qu'il y a des facteurs génétiques qui protègent un petit peu l'Afrique subsaharienne. Souvenez-vous de gènes de Néandertal dont on a parlé il y a tout simplement deux ou tout au plus trois semaines. Nous avons évidemment également les conditions climatiques, je crois. Je crois, même si on n'a pas démontré de manière évidente le climat, le fait de vivre à l'extérieur où la propagation du virus est quand même un petit peu moindre qu'en intérieur sont parmi les facteurs qui protégeraient. Je parle
au conditionnel, on l'entend. On entend la mesure dont vous faites preuve. Où peut-on se faire dépister en RDC et quelle marche à suivre en cas de symptômes ou de suspicion de Covid-19?
Oui, nous n'avons certainement pas aujourd'hui les possibilités de la France, qui ne sont pas encore suffisantes d'ailleurs, de dépister tout volontaire qui souhaiterait éventuellement savoir. Mais toujours est-il qu'on a aujourd'hui quand même une délocalisation. Ce n'est plus seulement à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Il y a une décentralisation dans certains centres de diagnostic de la ville de Kinshasa et même dans certaines provinces, comme à Goma, ça c'est dans le Nord Kivu, à Lubumbashi, ça c'est dans le Katanga, nous avons des possibilités de diagnostic par gene expert. Je m'excuse de devoir insister pour dire que Allez-y. Le système de santé, quoique faible, était quand même assez bien organisé, notamment dans la prise en charge de la tuberculose. Nous avons quasi dans toutes les provinces de la République des possibilités de test gene expert, mm-hmm. qui est un test moléculaire qui nous permet déjà de poser le diagnostic de la tuberculose et que l'on a aujourd'hui utilisé dans le sens de réaliser le diagnostic de la COVID-19.
Professeur Kayembe, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi, professeur Brio. Vous êtes rhumatologue, je le rappelle, à l'hôpital Cochin. Et merci à vous, Michel, d'avoir livré ce témoignage sur l'ostéoporose. Michel, très rapidement, en quelques mots, avez-vous un message d'espoir, un message positif pour nos auditeurs, nos auditrices qui seraient eux aussi atteints d'ostéoporose? Je
pense qu'il faudrait que le dépistage de ces maladies, les caisses maladies pourraient s'impliquer plus. Hein. Au Mans, je sais que bon, ils ont fait des conférences sur l'ostéoporose, c'est déjà ça.
Très vite.
Mais il faudrait qu'ils fassent une invitation aux personnes qui ont à peu près 55 ans pour les inviter à faire le dépistage.
Merci beaucoup à vous tous. On poursuit avec James Stewart et Ayoun Soule, le Tic Atlantic Drive. On écoute. Exact, c'est Atlantic River Drive de James Stewart et Ayoun Soule. Avant de vous quitter, je remercie toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Assetou Samaké, Ophélie Lassen, Louise Kaledek et Didier Bleu, notre réalisateur. Demain dans Priorité Santé, nous parlerons des IST. Toutes vos questions, 00331 84 22 75 75. Prenez soin de vous, sortez masqué, c'est important.